Installez confortablement chez vous. Retrouvez-nous depuis les studios d'Amplepuis pour votre journal d'information régionale. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de votre édition spéciale de ce mardi 7 avril. Le grand format de ce soir, Philippe Fersing, directeur adjoint de l'hôpital de Roanne, fait le point sur l'accueil en réanimation et lance un appel aux couturiers. Nous parlerons aussi de la chloroquine. Le médicament aurait été fourni illégalement à des salariés d'une entreprise Drandrézieux-Boutéon. En ce temps de confinement, certaines personnes sont en détresse psychologique. La psychologue Brenda Triana propose des séances de psychologie au téléphone. Elle nous en parle dans un instant. Dans ce journal aussi, de la solidarité avec des milliers de masques expédiés de Charlieu. Covid-19, encore, un tararien fabrique des protections en plexiglas. Nous verrons aussi qu'à Tizy-les-Bourgs, l'entreprise Creuset fait face à la crise sanitaire. Nous ferons un gros plan sur l'école à la maison avec la jeune Tia Balouzet d'Amplepuis et sa maman. Vous verrez, ce n'est pas aussi facile de s'improviser coach scolaire. Et puis enfin, dans l'actualité aussi, l'aventure The Voice s'arrête pour la tararienne Louise Combier. À la fin de cette édition, retrouvez la météo de demain. Philippe Fersing, directeur adjoint de l'hôpital de Roanne, fait le point sur l'accueil en réanimation et lance un appel aux couturiers et couturières. Des propos recueillis par Philippe Fest.
Philippe Fersing, vous êtes le directeur adjoint du centre hospitalier de Roanne, chargé de la communication.
Oui.
Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de RVR.
Nous entrons dans la quatrième semaine de confinement. Alors, quelle est la situation dans vos services ?
Aujourd'hui, il y a plusieurs unités, notamment, qui sont dédiées au Covid-19. Donc, nous avons ce qu'on appelle des unités d'hospitalisation classiques, complètes, où on hospitalise, et nous avons également des lits de réanimation. Alors, grosso modo, le schéma de prise en charge, comment est-ce qu'il est organisé ? On a donc une cinquantaine de lits conventionnels qui nous permettent donc d'accueillir des malades Covid et nous avons une capacité d'hospitalisation en réanimation de 26 lits.
C'est plein ou pas ?
Nous ne sommes pas, plein au complet. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de malades donc atteints du Covid et donc nous avons encore une capacité d'accueil.
Le nombre d'admissions a-t-il augmenté ces dernières semaines ?
Alors, c'est une très bonne question. Le nombre d'admissions tend à se stabiliser. Aujourd'hui, nous avons 17 patients hospitalisés en réanimation. Il y a encore effectivement une capacité de monter en charge et donc nous sommes prêts.
Êtes-vous en nombre suffisant de matériel ?
Alors sur le volet matériel, en termes d'équipements masques, les équipements masques ont fait l'actualité ces derniers jours. Donc nous avons encore des tensions. Simplement, nous commençons à être, mieux livrés. Mais les tensions sont réelles et subsistent. Après, il y a d'autres équipements sur lesquels nous sommes en tension, c'est ce qu'on appelle les EPI, des équipements de protection individuelle. En l'occurrence, c'est ce que l'on appelle les blouses et les surblouses qui permettent vraiment d'assurer une protection. Et là, c'est plus compliqué. Nous venons de faire passer un message sur le compte Facebook de l'établissement, puisque nous sommes en recherche de couturières pour fabriquer et confectionner des blouses et surblouses.
Donc concrètement, on vous contacte
Oui, alors
en dire
on peut...
plus
Alors effectivement, vous avez la possibilité donc de contacter le centre hospitalier de Roanne. Donc il y a un numéro dédié qui vient d'être mis en place avec une adresse mail.
Qu'en est-il du personnel également ?
Alors
est-ce que
le
vous
personnel,
êtes en nombre suffisant
oui,
aussi ?
Très très bonne question. Donc au niveau du personnel, grosso modo, donc tous les jours sur la prise en charge des patients Covid, nous avons 200 personnes qui sont mobilisées à la prise en charge des patients, que ce soit sur les unités conventionnelles de médecine, la réanimation et les services notamment des urgences, c'est-à-dire le SAMU, le SMUR et ce qu'on appelle le SAU, qui est le service accueil patient.
Ce personnel, donc j'imagine qu'il est mis à rude épreuve. Y a-t-il des cellules psychologiques, par exemple ?
Oui, nous avons mis en place effectivement une cellule donc d'écoute psychologique pour nos personnels, puisque il y a à la fois quand même une charge de travail conséquente et aussi une charge mentale lourde. Donc cette cellule est opérationnelle toute la journée. Elle est composée à la fois notamment de psychologues et de médecins du travail.
Et à ce propos, alors quelle est la situation au niveau des services psychologiques ? psychiatrie et du centre médico-psychique.
Oui. Alors, le service de psychiatrie, nous assurons donc la continuité du service, des hospitalisations complètes. Nous assurons les entrées de patients, les hospitalisations. Donc là, il n'y a pas de rupture, si je puis dire, dans la prise en charge. Nous avons réduit ce que l'on appelle quand même les activités autour de l'hôpital de jour. Donc, c'est un petit peu les points, c'est effectivement, sur lesquels nous avons été amenés à revoir l'activité du fait aussi de l'exposition Covid. Alors, il y a des lignes téléphoniques qui ont été mises en place pour pouvoir, notamment avec nos psychologues, avoir des échanges.
Comment se passe votre collaboration avec la clinique du Renaison ?
Alors, la collaboration avec la clinique du Renaison, c'est une collaboration, j'allais dire, intelligente et pragmatique. Donc, elle repose sur un axe important qui est le fait que l'hôpital de Roanne pourrait potentiellement devenir hôpital Covid à 500%. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous faisais état d'un capacitaire lit qui était autour de 55 à 70 lits. On pourrait très bien imaginer que nous ayons 200 personnes hospitalisées en Covid sur l'hôpital de Roanne. Donc, dans cette perspective, le travail se fait avec la clinique pour, par exemple, tout ce qui est chirurgie, urgence et autres. Et donc, ce partenariat a été construit de cette manière. Je tiens à dire que l'hôpital de Roanne, effectivement, comme il est labellisé hôpital Covid, car nous détenons, si vous voulez, toutes les autorisations, notamment de réanimation. La réanimation est quelque chose de très pointu et le service de l'hôpital de Roanne, effectivement, assure cette mission au quotidien. Voilà, donc une coopération pragmatique et intelligente avec une possibilité de délestage, notamment des activités de chirurgie sur la clinique du Renaison.
Vous n'êtes pas arrivé au pic, hein ?
Non. Nous sommes, nous sommes plutôt sur une phase de stabilisation. Alors, je suis toujours prudent parce que ce que je dis à 15h peut être totalement déconstruit à 18h, où on pourrait très bien avoir 20 patients qui arrivent hospitalisés dans des lits de médecine et qui, quelques jours après, décompensent et se retrouvent en réanimation. Donc voilà, c'est toujours la prudence est toujours de mise dans le cas présent.
Combien de temps restent-ils ces patients en réanimation et combien de temps après vous les gardez ?
Alors ça effectivement, nous sommes, si je puis dire, dans une période où, ça fait maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines que nous travaillons sur cette question. Généralement, les entrées en réanimation, parfois c'est très souvent 15 jours à un mois de réanimation et ensuite effectivement une prise en charge dans des unités conventionnelles puisque les dernières études démontrent quand même qu'il y a un certain nombre de séquelles de type neurologique ou autre et donc qui nécessitent une prise en charge derrière. Bien évidemment pour les cas les plus lourds. Ce que je tenais à dire, c'est que j'allais dire que les Rouennais, les habitants donc du territoire de cette belle région qui est Roanne et alentour, sont extrêmement solidaires. Nous recevons beaucoup de messages de soutien et au nom de la direction et du directeur, je tiens à les remercier, des soutiens en tout genre, que ce soit des remerciements, et ça fait vraiment chaud au cœur à nos personnels soignants. Voilà.
C'était Philippe Fersing, directeur adjoint de l'hôpital de Roanne. L'opération Couture est lancée aujourd'hui pour la fabrication de blouses. Si vous êtes intéressé, contact au 04 77 44 33 81. Tous les renseignements également sur notre site rvrradio.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux.
Dans ce journal aussi, la chloroquine, le médicament aura été fourni illégalement à des salariés d'une entreprise d'Andrézieux Boutéon. Le dirigeant de l'entreprise SNF, leader mondial du traitement des eaux, René Piche, en aurait distribué à ses salariés. Il vient d'être placé en garde à vue pour s'être procuré 900 comprimés de chloroquine en Inde. Après avoir acheté masques, gants et gel hydroalcoolique, il a indiqué avoir voulu aller plus loin en cas d'épidémie chez ses salariés. Les syndicats ont porté plainte ainsi que l'inspection du travail pour exercice illégal de la médecine et de la profession de pharmacien. Aucune preuve à l'heure actuelle ne permet d'indiquer si des personnels ont consommé de la chloroquine. Un mot maintenant sur la détresse psychologique. En ce temps de confinement, certains Français sont en détresse psychologique. Des initiatives ont donc fleuri, à l'image de la psychologue clinicienne Brenda Triana. Elle propose des séances de psychologie au téléphone. Brenda Triana, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes, rappelons-le, psychologue clinicienne depuis 20 ans maintenant. Vous êtes actuellement doctorante en psychologie clinique et psychopathologie. Vous accompagnez les enfants, les jeunes, les adultes ainsi que les familles pour des questions notamment liées à la parentalité, mais pas uniquement. En tout cas, depuis le confinement, vous proposez des séances de psychologie au téléphone. Expliquez-nous.
Je pense que comme beaucoup de confrères et consoeurs, dès qu'on a su qu'il y avait le confinement, bon, on a été comme tout le monde empêché de travailler, mais on s'est dit que les gens allaient avoir besoin quand même de se référer à quelqu'un pour le quotidien à la maison avec des enfants, pour comment vivre ces moments un peu, au début surtout un peu angoissants. Dès la première semaine, j'ai eu l'idée de me créer une page web. Donc le principe, c'était que les gens puissent avoir depuis chez eux la possibilité d'avoir des séances s'ils ressentent le besoin.
Est-ce que ce sont des séances gratuites ?
Non, parce que c'est quand même mon travail, je vis de ça. Alors après, évidemment qu'il va y avoir les aides de l'État qui sont proposées, donc on va voir, pour l'instant on attend.
Il y a un numéro vert qui a été mis en place pour aider les Français en détresse psychologique, notamment dans cette situation un peu inédite de confinement face à l'épidémie. C'est le 0800 13 00 00. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à ce numéro ?
Je fais de la psychothérapie. La vérité, c'est que je ne sais pas comment sont constituées ces plateformes d'écoute, si c'est des psychologues ou pas, donc je ne pourrais pas en juger. Je pense que ça peut être très bien. Les points d'écoute au niveau du coronavirus, ils vont recentraliser toutes les questions liées au confinement. Donc on n'est, à mon avis, pas tout à fait dans la psychothérapie. Hein. On est plus dans l'écoute d'un moment qui peut être traumatique pour certaines personnes.
Oui, quelque chose peut-être de plus ponctuel. Vous, ce que vous proposez, c'est peut-être plus un suivi et sur des thématiques qui sont un peu plus variées, comme la parentalité, le confinement certes, mais pas uniquement, ou sur les problèmes aussi de couple.
Oui, c'est très singulier ce qui se passe dans chaque maison hein, par rapport au confinement. Ça va dépendre des caractères des personnes. Donc après, ça va être vraiment, vraiment au cas par cas.
Quelles sont les questions ou les remarques que vous entendez le plus ?
Concernant le confinement, des parents qui disent qu'ils ne vont pas pouvoir assurer l'école à la maison dans les conditions qu'il faudrait. Des parents qui ont peur parce que déjà au quotidien, avec les quelques heures qui gèrent les enfants par jour, ils sont déjà des fois un peu, on va dire, en burn-out parental. Et du coup, effectivement, le confinement, un peu à ce moment-là, pour certaines familles, on va dire que ça va télescoper la problématique des difficultés d'obéissance, des difficultés d'autorité, des rivalités dans les fratries, voilà, parce que concerne les fratries et la gestion un peu de l'ambiance au quotidien dans la maison. Dans les couples, effectivement, on n'a pas l'habitude d'être H24 ensemble, donc forcément, ça va créer des moments de tension. Je pense qu'il y a quand même des étapes dans un confinement. Donc, on dit qu'il y a une première étape qui est très, très, très active, où les gens ont envie de faire plein de choses. Une deuxième période plus de repli, où on est dans les questionnements personnels. On a déjà passé beaucoup d'heures ensemble, donc on a besoin aussi, des fois, d'être seul, de ne pas entendre de bruit, voilà. Mais après, nous sommes aussi dans cette question de l'incertitude, de combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'on va sortir de ce confinement comme aussi de rien n'était et reprendre notre vie normalement, voilà.
Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être des petites astuces pour vivre cette situation exceptionnelle du mieux possible ?
Je pense que ça oblige, quoi qu'il en soit, à regarder en face le fait que nous n'en avons pas le contrôle sur tout et que ça nous a obligés à nous recentrer sur notre maison, notre famille, notre intérieur, voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a un moment où il faut aussi accepter qu'on ne peut pas avoir une prise sur tout. Pareil, les enfants ne vont pas à l'école, on ne peut pas leur imposer 7 heures de cours par jour ou de travail par jour. En même temps, on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Et puis aussi, souvent, des enfants qui avaient besoin d'une AVS à l'école. Il ne faut pas oublier ces enfants qui sont aidés par les assistants d'éducation et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir apprendre avec des parents qui, des fois, ils sont eux-mêmes aussi en difficulté ou qui ont été en difficulté scolaire. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je pense qu'il faut quand même lâcher un peu. Évidemment, maintenir des rythmes. Et puis essayer de sortir aussi un peu la tête des écrans parce qu'on sait que c'est des périodes où les enfants ont beaucoup à voir à faire aux écrans. Hein.
En tant que psychologue clinicienne, comment voyez-vous l'après-confinement ?
Il y a mon côté idéaliste, c'est ce côté que nous avons tous en nous qui me dit j'espère que de ça il va sortir quelque chose d'intéressant pour la société. Et on est face au fait que l'économie mondiale actuelle ne fonctionne pas. La planète aujourd'hui est quand même reconnaissante de cet arrêt de l'industrie et du mouvement sociétal. Donc on aurait envie que ça change, mais on sait très bien que c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pas ce qui va se passer. On va devoir sortir, à mon avis, progressivement, parce qu'on peut pas du jour au lendemain nous dire vous avez été en danger d'attraper une maladie, etc. Et de l'autre côté, nous dire, eh ben voilà, du jour au lendemain, allez tous dehors comme si de rien n'était, alors qu'on sait très bien que nous allons avoir besoin de temps pour reprendre le rythme qu'on avait avant le confinement. Je pense que ça va devoir se faire progressivement, mais moi-même, j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça va être, la fin du confinement.
Merci en tout cas Brenda Triana pour toutes ces précisions.
Avec plaisir.
À l'instant sur RVR, c'était la psychologue clinicienne Brenda Triana. Si vous avez des doutes, des interrogations, des angoisses, vous pouvez contacter le 06 68 29 53 00. Ou si vous avez des questions sur le confinement, un numéro vert a été, rappelons-le, mis en place pour aider les Français en détresse psychologique durant cette situation inédite. C'est le 0800 13 00 00, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce journal aussi, de la solidarité avec des milliers de masques expédiés de Charlieu. Les tissages de Charlieu et leurs dirigeants ont suscité un élan de solidarité générale dans la petite ville. Le comité d'action et de promotion de Charlieu a rapidement proposé son aide logistique avec de nombreuses associations. Ainsi, des masques sont expédiés dans toute la France au personnel soignant et aidant grâce à la mobilisation active d'une quinzaine de bénévoles. Sans oublier les partenaires régionaux comme Lyon Enveloppe de Mably ou encore AGB Photocopie de Charlieu. Covid-19 encore, un Tararien fabrique des protections en plexiglas. Pompier volontaire adjoint au chef du casernement de Tarare, Bruno Raffier est en effet particulièrement sensibilisé à cette situation de crise. Gérant de l'entreprise L'Univers du Vert à Tarare, il a donc décidé de rejoindre la lutte contre le coronavirus en proposant la fabrication de protections en plexiglas pour les commerces. Plusieurs boutiques de Tarare et ses alentours, dont des pharmacies, en sont déjà équipées. Ses actions ne s'arrêtent pas là puisqu'il a également trouvé des combinaisons intégrales de type désamiantage ainsi que des lingettes désinfectantes. Le tout a été offert au service des urgences de Tarare. À Tizy-les-Bourgs, les sirops Crozet font face à la crise sanitaire. La crise sanitaire n'épargne personne et la distillerie Crozet en a fait l'amer constat. Les commerces non essentiels, dont font partie les fabricants de sirops et de liqueurs, sont fermés depuis le 14 mars, forçant le fabricant de Tizy à se mettre à l'arrêt. Si 95% de la clientèle sont les bars et les restaurants, l'entreprise livre toujours quelques cavistes et enseignes alimentaires à un rythme beaucoup plus calme que d'habitude. C'est pourquoi les 4 employés sont en chômage partiel. Les deux patrons maintiennent une activité minimale. Une activité minimale également avec l'école à la maison. Depuis le 16 mars dernier, l'intégralité des établissements scolaires ont fermé leurs portes en réponse à l'expansion du Covid-19 en France. Les écoliers sont désormais confinés chez eux. Problème de connexion, trop de devoirs, pas toujours évident de se motiver. Tia Balouzet s'exprime sur cette situation exceptionnelle. Tia, alors tu as 9 ans, tu es à l'école au Petit Prince en Pleupuis. Alors, quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu n'allais plus aller à l'école ?
J'étais triste parce que j'allais plus voir mes copines.
Comment vous avez organisé vos journées ?
Le matin, on fait l'école. Après, on a fait la moitié de nos devoirs, on va à la récré. On finit nos devoirs. Et l'après-midi, souvent, on a tout fait le matin, alors on n'a plus rien à faire l'après-midi.
Comment ça se passe avec la maîtresse ?
Par exemple, le lundi, elle nous envoie les devoirs pour le mardi. Et aussi, on a un site, c'est mon école, et dessus, on a les devoirs à faire.
Et est-ce que tes parents t'aident pour faire tes devoirs ?
Oui. Des fois, ils savent pas des choses, et il faut leur expliquer, mais des fois, ils comprennent pas. Alors.
Tiens, tu es aussi à côté de ta maman, Anaïs. Quels sont les devoirs, les exercices que vous trouvez le plus difficile à faire, alors ?
C'est surtout les maths. Parce que Tia, c'est pas trop son point fort, mais voilà, elle s'accroche. Mais c'est vrai que quand elle n'est pas motivée à faire ses maths, c'est un petit peu compliqué. Autrement, Tia est super volontaire pour faire ses devoirs. Alors, c'est plutôt agréable.
Comment faites-vous pour la motiver ? Il n'y a pas besoin alors ?
Si, c'est de temps en temps, comme hier, c'était le premier jour où vraiment, on sentait qu'elle n'avait pas envie. Alors, j'ai pas insisté plus que ça. J'ai dit, écoute, on va passer l'après-midi, on va faire des jeux. Et puis en fin de journée, elle me dit, allez, je me sens prête à faire les devoirs. Alors on a pu faire les devoirs tranquillement en fin de journée. Je m'adapte un peu à leur rythme aussi, parce que c'est pas tous les jours simple.
Est-ce que vous avez des petites astuces peut-être pour motiver votre enfant ?
Oui, j'ai une astuce, parce que Tia, elle est souvent en contact avec ses copines. Alors je dis, si tu fais bien ce qu'on te demande, tu pourras appeler tes amis. Voilà, c'est un petit peu le seul moyen que j'ai de la motiver.
C'est votre astuce.
Voilà, c'est mon astuce.
À A-t-elle beaucoup de devoirs ?
La maîtresse est très, très consignante par rapport à ça. Elle met des exercices supplémentaires voilà, pour les enfants qui ont besoin de plus avancer. Comme Tia, aujourd'hui, elle a pu tous les faire et par moment, elle ne les fait pas parce que voilà, elle se sent déjà bien assez rassasiée par les devoirs. Et non, elle s'adapte très, très bien, la maîtresse. Moi, j'ai deux filles. C'est vrai que ma petite, elle est au CP et avec Madame Longin. Et je les remercie tous les deux, Monsieur Rousset et Madame Longin, parce que vraiment, on voit le travail qu'ils font en amont et puis ils sont très à l'écoute.
Est-ce que tous les deux, c'est-à-dire vous et votre mari, vous travaillez encore ?
Moi, je ne travaille pas là pour l'instant. Et mon mari, pareil, son boulot ne veut pas les faire reprendre tant que les conditions ne seront pas favorables pour la reprise du boulot. Alors, on est à la maison ensemble.
Est-ce que ce n'est pas compliqué de vivre les uns sur les autres ?
On s'adapte, mais c'est sûr que oui, ce n'est pas évident de se retrouver du jour au lendemain tous ensemble et puis d'être confinés, vraiment d'être confinés. Mais voilà, on fait tous des concessions et on essaye que ça se passe pour le mieux.
Est-ce que vous avez gardé un rythme, plus ou moins le rythme de l'école ?
Oui, vers 9h, on attaque les devoirs. J'essaye de tout faire dans la matinée, comme ça l'après-midi, on consacre pour les activités manuelles, on fait du sport, on écoute de la musique.
En tant que maman, en tant que professeur des écoles à la maison, Qu'est-ce qui est le plus difficile dans tout cet épisode de confinement ?
Le plus difficile, c'est vraiment la coupure du lien social pour nos enfants et puis pour nous aussi. Hein, mais pour nos enfants, c'est vrai que ils ont dû s'adapter du jour au lendemain. Voilà, on leur a dit, vous n'allez plus avoir école. Puis pas savoir quand est-ce que ça va reprendre. C'est surtout ça le plus dur à s'adapter. Là, c'est 3 semaines, mais on se dit, si ça continue, on ne sait pas comment les enfants aussi vont ressortir de tout ça parce que c'est quand même assez compliqué de demander à des enfants de s'adapter, de rester sages, de tout ce qu'ils entendent aussi autour. Hein. C'est pas...
Tia, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce confinement ?
Pas voir mes amis, ni ma maîtresse, pas pouvoir sortir, ni voir ma famille.
Tu as quelque chose à dire, peut-être, à tes copains et tes copines, s'ils t'écoutent ?
Je leur fais tous un gros bisou à toute ma classe, à ma maîtresse, et aussi à mes cousins et cousines, ma famille, je leur fais aussi tous des gros bisous. Et merci aux médecins, aux gens qui travaillent, les infirmiers, les infirmières, je leur dis tous merci et bravo, parce qu'ils risquent leur vie pour nous et c'est bien.
Merci Tia.
De rien.
À l'instant sur RVR, c'était Tia Balouzet, 9 ans, et sa maman Anaïs. S'improviser coach scolaire pour les parents n'a rien d'évident, surtout s'ils font du télétravail en plus. La mise en route de l'enseignement à distance ne semble pas non plus avoir été facile du côté des professeurs, d'où une certaine pagaille parfois dans les informations délivrées aux familles. Quoi qu'il en soit, le confinement suit son cours. Cette continuité pédagogique mise en place pour maintenir ce contact régulier entre les élèves et leurs professeurs reste nécessaire. Le retour des élèves en classe n'est pas pour tout de suite. Avec le confinement, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, ont dû suivre bien évidemment The Voice ce samedi. Mais pour ceux qui ont raté l'émission, l'aventure s'arrête pour la tararienne Louise Combier. Éliminée lors des épreuves des KO, la chanteuse tararienne avait décidé d'interpréter « Tous les bateaux, tous les oiseaux » de Michel Polnareff. Bien que l'ayant buzzé, Marc Lavoine avait omis avoir déjà sélectionné 4 autres talents et s'est vu obligé de mettre fin à l'ascension de Louise sur petit écran. Son coach l'a d'ailleurs décrit comme quelqu'un capable de chanter beaucoup de choses avec énormément d'émotion. Si l'aventure s'achève pour Louise, le chanteur désire tout de même suivre sa progression. Dans votre journal régional sur RVR, place maintenant à la météo de demain. Le soleil est au rendez-vous pour toute la journée. Le matin, il fait 8 degrés à Saint-Jules-la-Pendue, 9 degrés à Amplepuis à Ranchal. Le mercure est en nette hausse l'après-midi avec 19 degrés à Valsonne, 20 degrés du côté de Saint-Forgeux, 21 à Roanne. Pour ceux qui ont un jardin, profitez-en, le printemps s'installe. Demain, bonne fête au Julie. Le soleil se lève à 7h07 et se couche à 20h21. Nous gagnons encore 3 minutes de soleil. Et pour finir, voici un aperçu de ce qui vous attend ce soir sur nos ondes. Juste après votre édition de 19h, c'est Mots électriques. À 21h, pochette surprise. À 22h, retrouvez Funkantology. Pour écouter tous nos reportages, un seul site internet, rvrradio.fr. Nous vous attendons également sur les réseaux sociaux sur RVR Radio Libre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la rédaction de ce journal, Philippe Fest et Tristan Garnier. Excellente soirée à toutes et à tous sur RVR. À demain.